Europe 1, le 22-22-30, Romain Oquet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de la nuit. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'infos, il est 22h. Merci d'avoir choisi Europe 1.
Je profite de la levée des 10 km pour pouvoir aller voir ma famille à Marseille.
En mai, fais ce qu'il te plaît, vous connaissez l'adage. Premier week-end sans restriction de circulation et comme cette parisienne, vous étiez nombreux sur les quais de gare. Reportage dans un instant. Nouveau record de vaccination, 617 000 doses injectées aujourd'hui. Mais le gouvernement redoute un coup d'arrêt dans la campagne à cause des jours fériés et des ponts de mai. L'arrestation de 6 membres d'un groupuscule néo-nazi. Ils envisageaient une action violente contre une loge maçonnique et ils avaient même fait des repérages, nous dira Guillaume Bier. À Chambéry, Nordal-Lelandais n'a pas craqué. Cinquième jour de procès aux assises de Savoie. Et l'accusé s'accroche à sa version des faits sur la mort d'Arthur Noyer. Un accident, dit-il. Ligoté à une cible et cerné par des tirs d'avions de combat, un bizutage traumatisant dans l'armée de l'air. 2 ans plus tard, un jeune militaire ose porter plainte. Après la mort d'un policier à Avignon, la sécurité, un thème au centre de la prochaine présidentielle. L'exécutif sait qu'il doit reprendre la main s'il ne veut pas laisser un boulevard à l'opposition. Décryptage à suivre. Et le bureau des légendes, le vrai, cette fois, déménage. La DGSE quitte son QG. Oui, mais pour aller où et surtout pourquoi? L'éclairage de Didier François, spécialiste des questions de sécurité. Dans le journal, nous irons au stade Bollaert de Lens. 36e journée de Ligue 1 avec un derby décisif. Les 100 et or affrontent en ce moment Lille, premier du classement. On suivra la rencontre avec Lionel Gougelot, bien installé dans les gradins. À 22h20, l'interview éco d'Emmanuel Duteil sur l'épargne salariale. Eh bien, il ne faut pas trop compter dessus cette année puisqu'elle va baisser de 20%. Pour en parler, nous recevrons Maxime Chipol, président de Moneyvox, site d'information spécialisé sur l'argent. Ce sera juste après la bourse et vos prévisions météo avec du soleil sur les trois quarts du pays demain et des températures qui grimpent, nous dira Anissa Haddadi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et vous, qu'est-ce que vous faites ce week-end avec la levée des restrictions de circulation? Vous êtes nombreux à vouloir profiter de la fin de la semaine. Ajoutez à cela une météo quasi estivale. Anissa Haddadi nous en parlera à la fin du journal. Il y avait donc du monde ce soir dans les trains, des Parisiens notamment, libérés, délivrés. Le reportage de Romain Hougues.
Le parvis de la gare de Lyon a retrouvé son effervescence habituelle. Il y a le bruit des valises à roulettes sur les pavés, les retardataires qui courent pour ne pas rater leur train, mais surtout tous ceux qui vont pouvoir à nouveau voyager, voir leurs amis ou leurs proches, comme Julie, 32 ans.
Là, je profite de la levée des 10 km pour pouvoir aller voir ma famille à Marseille.
Ça faisait longtemps ?
Ça faisait... En fait, je les ai pas vus quasiment depuis juillet, effectivement.
À quelques mètres de là, on devine le sourire sous le masque d'Antoine, fraîchement trentenaire, et pour cause.
Je suis invité par mon copain pour partir en week-end surprise, et je sais pas où je vais.
Une petite idée ou...
Aucune, du tout. Je pense vers le soleil, parce qu'il fait mauvais en ce moment, mais voilà. On a envie de retrouver ce qu'on faisait avant, passer des week-ends hors de Paris pour pouvoir... Juste être dans la nature et profiter un peu du beau temps, quoi.
Elle aussi va profiter du beau temps. Sophie attend son train pour Montélimar, heureuse.
Ça fait vraiment plaisir de pouvoir de nouveau se déplacer. On reprend goût et je pense même d'une manière un peu plus prononcée à ces plaisirs simples de la vie. On se rend compte que la liberté, c'est un truc sympa quand même.
Nombreux sont ceux qui prennent le départ en train après de longues semaines de restrictions avec comme un goût de liberté retrouvée.
Le reportage de Romain Hougues à Gare de Lyon pour Europe 1. Des week-ends de mai propices aux escapades, donc un peu moins à la vaccination. Et c'est justement la crainte du gouvernement. Le ministre de la Santé était aujourd'hui dans un centre de vaccination à Clichy-sous-Bois, en région parisienne. Et Olivier Véran sait que les dimanches et les jours fériés sont le talon d'Achille de cette campagne, Victor Dolande.
Oui, il y a 5 à 6 fois moins d'injections réalisées les dimanches et les jours fériés par rapport aux autres jours. La semaine prochaine, le gouvernement se fixe un objectif de 2 millions de primo-injections pour atteindre le fameux seuil des 20 millions au 15 mai. Olivier Véran demande donc des efforts à tous les personnels dans les centres de vaccination.
Quand je dis mobilisation des centres sur tout le territoire national, je parle des week-ends bien sûr, mais je parle également des soirées. De manière à ce que les Français qui travaillent et qui sont de plus en plus jeunes à pouvoir se faire vacciner n'aient pas à poser un jour de congé pour aller se faire vacciner. Évidemment, ils ne seront pas soumis aux règles de couvre-feu quand c'est pour se rendre dans un centre de vaccination.
La plupart des centres seront donc ouverts en soirée. Et pour prêter main forte aux équipes, le ministre de la Santé lui-même enfilera sa blouse blanche de médecin mardi prochain pour réaliser des injections. Deuxième annonce, ou plutôt demande du ministre avant le pont de l'Ascension, la semaine prochaine, Olivier Véran recommande aux Français d'aller se faire tester tester massivement pour ne pas prendre de risques avant de voir sa famille ou ses amis.
Les précisions de Victor Dolande, spécialiste santé d'Europe 1. Les autorités rallongent aussi la liste des pays à risque. Dès dimanche matin, les voyageurs en provenance notamment de Turquie, du Qatar ou des Émirats arabes unis devront s'isoler une dizaine de jours à leur arrivée en France. Dans cette liste, il y a aussi le Népal, le pays du monde où l'épidémie accélère le plus cette semaine. Le Premier ministre a lancé un appel à la communauté internationale pour obtenir des équipements médicaux et des vaccins. Et pour approvisionner les pays défavorisés, justement, l'OMS a donné son feu vert en urgence tout à l'heure à un nouveau vaccin, celui du chinois Sinopharm. L'OMS qui est aussi favorable à la levée des brevets sur les vaccins. En clair, cela permettrait à d'autres entreprises qui n'ont pas mis au point ces vaccins de les fabriquer aussi, sans autorisation particulière. Un débat qui sera sur la table du sommet européen, organisé aujourd'hui et demain au Portugal. Et les échanges promettent d'être vifs. Si Emmanuel Macron a répété être ouvert à l'idée, l'Allemagne y est opposée.
Europe 1, le 22-22-30, Romain Oquet.
Un projet d'attentat déjoué en France. 6 membres d'un groupuscule néo-nazi ont été interpellés en début de semaine. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu s'en prendre à une loge maçonnique, Guillaume Bié.
Oui, c'était leur projet, l'objet de leur discussion et même la raison pour laquelle ils avaient commencé à faire des repérages. Ces sympathisants d'ultra-droite, admirateurs d'Adolf Hitler et du Troisième Reich, ont été arrêtés mardi dans le Bas-Rhin et dans le Doubs. Leur groupuscule baptisé Honneur et Nation était dans le collimateur du parquet national antiterroriste qui avait ouvert une enquête préliminaire dès le mois de février. Les investigations des services de renseignement ont montré que ces suspects envisageaient de commettre un attentat à l'explosif, notamment contre une loge maçonnique de Moselle. Pas de date précise, pas d'explosif retrouvé en perquisition, mais suffisamment d'indices graves et concordants pour que 3 des suspects, 2 hommes et une femme âgés de 29 à 56 ans, soient présentés à un juge antiterroriste pour être mis en examen. Des personnes dont le groupuscule était aussi en lien avec Rémi Daillet, figure complotiste exilée en Malaisie, mis en cause, vous vous souvenez, dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia le mois dernier.
Les informations de Guillaume Bié, chef du service police-justice d'Europe 1. À Mérignac, le mari violent et récidiviste qui a immolé sa femme par le feu dormira ce soir en prison. L'homme de 44 ans est mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Il a été placé en détention provisoire. C'était un jour crucial dans le procès de Nordal Lelandais. L'homme a été appelé à la barre pour livrer sa version des faits. Et après 5 jours d'audience, l'accusé n'a pas vacillé. Non, il n'a pas voulu tuer le caporal Arthur Noyer. Nordal Lelandais s'accroche à sa version des faits, Jean-Luc Boujon.
Oui, effectivement, Nordal Lelandais n'a pas craqué, n'a pas flanché durant les 3 heures d'interrogatoire. Il a confirmé sa version des faits. Je n'ai pas voulu la mort d'Arthur Noyer. J'ai juste répondu à ses coups. C'était un accident, a-t-il martelé. Même son avocat, maître Alain Jakubowicz, dans une sorte d'étrange inversion des rôles, lui a offert la possibilité de modifier ses déclarations, tutoyant son client. Il lui a dit, si cette version n'est pas la bonne, c'est le moment, Nordal. C'est le moment de parler, de dire la vérité. Si tu penses que tu n'as pas tout dit, si la dispute avec Arthur avait un mobile sexuel, tu dois parler maintenant. L'ancien maître chien a pris le temps avant de répondre, puis il a déclaré « Non, j'ai tout dit ce qui s'est passé, il n'y a aucun motif sexuel à notre altercation, il m'a frappé, j'ai répondu, je l'ai tué, c'était un accident, je n'ai rien à ajouter. » D'où la déception de la famille d'Arthur Noyer et de son avocat, maître Bernard Boulou.
J'ai cru à un moment qu'il allait peut-être dire la vérité ou un bout de vérité. Je pense qu'il a raté ce moment. Il risque de le regretter, puisque avec la somme de contradictions qu'il y a dans ce dossier de sa part, avec la somme d'évidence qu'il y a de l'autre côté, je pense que l'intime conviction des juges eh bien, fera le reste. Et moi, je suis certain que le meurtre sera retenu en tout cas.
Voilà, alors le procès reprendra lundi avec les expertises psychiatriques de Lelandais. Le verdict est attendu mercredi prochain.
Merci. Merci Jean-Luc Boujon aux assises de Savoie à Chambéry pour Europe 1. Il aura fallu 2 ans à ce soldat pour briser la loi du silence. Un jeune pilote de chasse traumatisé par un bizutage en 2019. Il a été ligoté à un poteau planté au milieu d'une cible. Dans le ciel, des avions de combat qui tirent à balles réelles. Ça s'est passé sur la base aérienne militaire de Solenzara en Corse. Le militaire vient de porter plainte. Stéphane Frangy, vous avez eu accès au dossier et les photos sont glaçantes.
Oui, on y voit un soldat dans le coffre d'un pick-up, ligoté, un sac sur la tête. Sur un autre cliché, il est toujours cagoulé. On le voit cette fois-ci sangler à un pylône. Pylône qui est marqué par des impacts et surtout, il est surmonté par une grande croix rouge. C'est une cible. Sur ce terrain de la côte est de la Corse, eh bien, il va passer 20 longues minutes dans le noir à entendre les va-et-vient d'avions de chasse Mirage tirés des obus à une distance qu'il estime à 500 mètres. Mais avant de briser la loi du silence, il aura fallu 2 ans à la victime pour se décider, un choix difficile, raconte son avocat, maître Frédéric Bernat.
Comme souvent dans l'armée, on n'ose pas. Il a peur parce que dans cette institution, il ne fait pas bon dénoncer ce genre de pratiques qui sont institutionnalisées, connues au plus haut niveau du commandement et contre lesquelles rien n'est manifestement fait.
Alors l'armée de terre condamne des agissements qu'elle juge inacceptables, qui étaient connus dans ce cas précis puisqu'un processus disciplinaire interne a été enclenché il y a quelques mois et plusieurs soldats très sévèrement punis dans la chaîne de commandement sans que l'on sache leur nombre et la nature de ces sanctions.
Stéphane Frangy, correspondant à Marseille pour Europe 1. 22h10, la suite de votre journal et la traque qui continue après la mort d'un policier à Avignon. Le tireur est toujours en fuite. Dans un premier temps, on a pensé qu'il s'agissait du dealer qui avait sorti son arme et ouvert le feu. Mais ce soir, ce n'est plus une certitude. On apprend aussi que la seule garde à vue dans cette enquête, celle d'une toxicomane témoin du drame, a été levée ce soir sans résultat. Un hommage sera organisé dimanche à Avignon. Les syndicats appellent aussi à une marche citoyenne le 19 mai à Paris et suspendent leur participation au Beauvau de la sécurité. L'opposition, de son côté, réclame des mesures plus fortes. La droite, notamment, demande un durcissement des peines pour les trafiquants de drogue. Louis Dragnel, l'étau se resserre autour du gouvernement.
Oui, et désormais la priorité donc pour le gouvernement, c'est d'abord d'essayer de montrer que sa politique apporte des réponses concrètes à l'insécurité et au malaise inégalé dans la police. Un message très compliqué à faire passer avec les faits divers sordides qui se multiplient. Mais à un an de la présidentielle, l'enjeu est surtout politique. Le gouvernement a bien compris que la question de l'insécurité et de l'ultra-violence est son talon d'Achille. C'est pourquoi Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, multiplient les déclarations martiales dans la presse. L'enjeu est tellement important que le Premier ministre Jean Castex réagit désormais systématiquement dès que les forces de l'ordre sont attaquées. Avec un objectif, éviter que la droite prenne trop de place dans le débat public pour attaquer le gouvernement. Cette semaine, Xavier Bertrand a tiré à boulet rouge sur Emmanuel Macron, notamment sur l'insécurité et l'immigration incontrôlée. Une charge qui a laissé des traces, selon l'aveu d'un conseiller de l'exécutif, qui reconnaît que la séquence est très mauvaise, et de rappeler le titre de l'entretien d'Emmanuel Macron au Figaro le 18 avril dernier, « Je me bats pour le droit à la vie paisible ». Une phrase qui, aujourd'hui, peut lui faire très mal politiquement.
Louis Dragnel du service politique d'Europe 1 et un autre membre du gouvernement qui risque aussi de prendre des coups, c'est Éric Dupond-Moretti. Il officialise sa candidature aux élections régionales dans les Hauts-de-France, mais le garde des Sceaux ne sera pas tête de liste.
Europe 1, Romain Hockey.
Ces bureaux top secret, le public les a découverts dans la série Le Bureau des Légendes. Le vrai, cette fois, va déménager. Les agents de la DGSE vont quitter leur quartier général du boulevard Mortier, dans le nord de Paris. Ils vont s'installer dans une nouvelle caserne ultra moderne, en lisière du bois de Vincennes. Ce déménagement, prévu pour 2028, c'est le président de la République qui l'a annoncé en personne aux officiers. Eux, justement, étaient un peu à l'étroit, Didier François, puisque le nombre d'agents secrets a beaucoup augmenté ces dernières années.
Ah bah, il a doublé en 30 ans. On était à 3500 aux officiers en 1991 et ils sont maintenant plus de 7000. Mais surtout, le travail de la DGSE s'est terriblement complexifié. Les missions aujourd'hui demandent systématiquement d'intégrer des capacités d'interception cyber, l'Internet, et puis les spécialistes des différentes directions de services, opérations, renseignements, techniques, qui doivent travailler ensemble dans une même salle. Et on voit donc se multiplier des bureaux un peu surpeuplés, avec des fils, des branchements électriques qui passent dans tous les sens. Alors ça marche, mais ça ne pouvait pas durer. L'idée a donc été présentée au président de la République et à la ministre de la Défense par le directeur général, Bernard Rémier, et c'est bien plus qu'un simple déménagement. C'est en fait l'idée de doter la DGSE d'un outil de commandement qui soit à la hauteur de ses ambitions, et puis surtout des menaces actuelles, parce qu'entre le terrorisme, la montée en puissance de nouveaux États comme la Turquie, la Chine, l'Iran, la Russie, il faut vraiment mettre en place des structures puissantes, surtout très agiles, capables aussi de fournir des accès techniques à tous les autres agences, de ce qu'on appelle le premier cercle de la communauté du renseignement. Donc, vous voyez bien la DGSI au ministère de l'Intérieur, ou bien la direction du renseignement militaire, la DRSD, ou le commandement cyber des armées. C'est ça l'objectif de Vincennes. Ce sera un site de 20 hectares, donc deux fois la taille de Mortier, surtout doté justement de ses capacités informatiques, qui sont des capacités d'avenir.
Merci Didier François pour cet éclairage, spécialiste des questions internationales pour Europe 1. En tennis, le roi Nadal a un genou à terre. L'Espagnol a été éliminé chez lui à Madrid en quart de finale du tournoi du Masters 1000. Raphaël Nadal s'est incliné 6-4, 6-4 face à la l'allemand Zverev, pressant et précis. Une défaite à moins de 3 semaines de Roland-Garros où Nadal visera un 14e sacre historique. Zverev, lui, retrouvera l'Autrichien Dominic Thiem pour une place en finale. Et deux bonnes raisons de regarder la rencontre entre Lens et Lille ce soir. D'abord, c'est un derby 100% Hauts-de-France. Et ensuite, c'est un match qui peut être décisif pour le classement de la Ligue 1. Les Lillois en première place du classement visent le titre. Lionel Gougelot, vous êtes au stade Bollaert à Lens où vous suivez la rencontre. Où en est le score ?
Eh bien écoutez, on joue la 55e et Lille mène ici sur la pelouse du stade Félix Bollaert sur le score de 2-0. Deux buts inscrits en première mi-temps par l'attaquant turc du LOSC, Burak Yılmaz. D'abord le premier sur pénalty dès la 4e minute. Pénalty consécutif à une faute sur Jonathan Bamba, bien sûr dans la surface de réparation lensoise. Il n'a pas tremblé, Burak Yılmaz, pour ouvrir le score en faveur des Lillois. Et puis le second but, Lillois, un tir exceptionnel aux 30 mètres, tir pied gauche enroulé qui s'est logé dans la lucarne du gardien lensois Jean-Louis Leca, qui n'a absolument rien pu faire sur cette action exceptionnelle, donc je vous le disais, de l'attaquant lillois Burak Yılmaz, permettant ainsi donc à Lille eh bien, de faire le break face aux Lensois. Il faut dire que des Lensois étaient réduits à 10 dans cette première période après l'expulsion pour 2 cartons jaunes du défenseur Clément Michelin. Et donc eh bien, les Lillois ont entamé cette deuxième période à leur main, si je puis dire, menant toujours sur le score de 2-0 et s'étant offert il y a quelques secondes maintenant une assez belle occasion par l'intermédiaire de leur attaquant brésilien Luis Araújo. 2-0 donc pour le LOSC et l'on joue de la 57e minute ici à Bollaert.
Merci Lionel Gougelot en direct de Lens pour Europe 1. Et puis à noter l'UEFA qui annonce ce soir une série de sanctions contre 9 des 12 clubs à l'origine du projet de Super League. Ces écuries devront renoncer à 5% des revenus qu'elles devaient obtenir lors des compétitions européennes. Les autres clubs qui refusent de renoncer au projet encourent des sanctions beaucoup plus lourdes. Il est 22h et presque 17 minutes, un point sur votre météo. Et le week-end qui commence bien, Anissa Haddadi, puisque demain les températures grimpent.
Oui, et dès le début de la journée, hein, Roman, on va ressentir cette hausse de température avec 2 à 14 degrés sur l'ensemble du pays demain matin. Dans l'après-midi, les maximales sont en forte hausse. C'est un vrai coup de chaleur que nous avons sur la France pour les deux jours à venir. Les températures vont gagner jusqu'à 10 degrés par région. Alors nous aurons 17 à 21 degrés demain après-midi sur le quart nord-ouest. C'est là qu'il fera le plus frais. Hein. 17 à Brest, 18 à Lorient, 21 pour Rennes et Belfort, 22 à 26 degrés partout ailleurs, 22 pour Paris, 24 à Marseille et à Lyon, 26 pour Saint-Etienne, 26 également pour Limoges et jusqu'à 30 degrés dans le sud avec 28 degrés à Toulouse, 29 à Biarritz et la maximale est prévue pour Bordeaux. Alors dans le ciel, nous avons encore quelques petits nuages dans le nord-ouest, du vent aussi sur les côtes de la Manche, de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France, des petites averses qui se produisent tout au long de la journée. Partout ailleurs, des pays de la Loire à l'Alsace, notamment en passant par la région parisienne, le ciel couvert le matin va se dégager dans l'après-midi. Et alors sur tout le reste du pays, c'est un soleil généreux dans un ciel bien dégagé. Attention, dans le sud, le vent d'autant souffle toujours.
Voilà, un soleil généreux, c'est ce qu'on retiendra et on va en profiter. Merci Anissa Haddadi.
Europe 1.
Vous ne bougez pas dans un instant, on fait le point sur les places financières. Avant l'interview éco d'Emmanuel Duteil sur l'épargne salariale, le montant versé va baisser de 20% cette année. Et pour en parler, Maxime Chipol, président de Moneyvox, site d'information spécialisé sur l'argent. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Roman Hockey.
Et à 22h19, on fait un point sur la bourse avec vous, Didier Hameau de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Roman.
Wall Street termine la semaine en hausse malgré la déception liée aux derniers chiffres du chômage aux États-Unis.
Oui, ça monte encore, plus 0,6% sur le Dow Jones, 34 777 points. Le Nasdaq, surtout l'indice des valeurs de technologie, rebondit de 0,88%, 13 752 points. C'est vrai que c'était le rendez-vous de la journée sur les marchés. Il y a eu 266 000 emplois de créés aux États-Unis au mois d'avril. Alors que les analystes attendaient 1 million de créations de postes, on est loin du compte. Les analystes qui tablaient sur la forte reprise économique pour voir donc le chômage baisser, et c'est raté puisque le taux de chômage monte au contraire de 6 à 6,1% de la population active. Alors paradoxalement sur les marchés, cela calme les craintes de résurgence de l'inflation que redoutent les investisseurs et ça explique le rebond des valeurs de technologie en particulier. Comme Apple, plus 0,5%. Oh, c'est un petit rebond, hein. $130,20 sur Apple. Microsoft, plus 1%, Tesla plus 1,3% à $672. On a Netflix qui remonte de 0,8%, Intel aussi prend 0,8%, Facebook est stable. Le pétrole aussi ne bouge pas, $65 le baril, Exxon monte quand même d'un 0,5%. L'euro remonte lui à 1,2170 après la déception donc sur les chiffres du chômage aux États-Unis. Le dollar baisse et l'euro remonte un petit peu, 1,2170 ce soir.
Alors du côté de la Bourse de Paris, elle a de nouveau progressé avec une troisième séance de hausse consécutive.
Ça continue, oui, plus 0,4%, plus 0,45% exactement, 6385 points. C'est un nouveau sommet depuis quand même plus de 20 ans, depuis novembre 2000 sur le marché parisien. Troisième séance de hausse consécutive effectivement avec l'aide des publications d'entreprises. Europcar remonte de 14% après des pertes réduites. On a aussi le groupe de conseil en haute technologie AKKA qui prend 7% sur une amélioration de ses comptes trimestriels. Villemorin remonte d'1,6% à €62. Le groupe Grenetier révise en hausse ses prévisions. Ses objectifs annuels sont revus en hausse avec un chiffre d'affaires qui a progressé de 10% au troisième trimestre. On a aussi des valeurs comme Séchez, Dior ou STMicro qui gagnent ce soir plus de 2%.
Merci pour ce tour d'horizon complet. Didier Hamot de Boursier.com. 22h22 sur Europe 1, l'heure de l'interview éco avec vous Emmanuel Duteil.
Bonsoir Maxime Chipoy.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de Moneyvox. Moneyvox est un site d'information spécialiste de l'argent. Et c'est bien pour cela que nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, parce que vous venez de faire paraître un dossier très intéressant sur l'épargne salariale, la fameuse participation, le fameux intéressement. Mais cette année, il ne va pas falloir trop compter dessus. Parce que quand on regarde vos chiffres, vous annoncez une baisse de 20%. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont fait moins de bénéfices ?
Alors, oui, en effet, ils n'ont pas forcément fait moins de bénéfices en 2021, mais la participation et l'intéressement, c'est calculé par rapport à l'année d'avant. Et évidemment, l'année d'avant, c'était l'année 2020, année bien connue du Covid, où globalement, les entreprises ont eu pas mal de difficultés. Et ça se ressent maintenant, donc un an plus tard, sur la participation et l'intéressement qui vont être versés aux salariés.
Oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, la participation dépend, allez, on va dire exclusivement des bénéfices de l'entreprise. Alors que l'intéressement, en revanche, peut, lui, être modulé par d'autres critères.
Oui, tout à fait. La participation, c'est totalement mécanique et automatique. C'est lié aux bénéfices de l'entreprise. En revanche, l'intéressement, ça dépend des entreprises. C'est des accords entre le patronat et les partenaires sociaux de chaque entreprise. Et ça dépend des spécificités de chaque entreprise. Donc, si vous travaillez, par exemple, dans l'édition, votre intéressement peut dépendre des bénéfices, mais aussi, par exemple, du tirage du journal sur l'année passée. Donc, c'est moins mécanique.
En revanche, j'imagine que les situations sont extrêmement hétérogènes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gagnants et des perdants ?
Oui, il y a des gagnants et des perdants, comme il y a eu des gagnants et des perdants lors de la crise du Covid. Clairement, tous les salariés qui travaillent dans le domaine du tourisme au sens large ont évidemment beaucoup souffert l'année dernière du Covid. Et ça va se ressentir dans leur intéressement et leur participation de cette année. Voilà, l'aéronautique, l'hôtellerie, la restauration vont être des secteurs où très, très probablement l'intéressement et la participation seront nuls. Et donc les salariés ne vont pas recevoir grand-chose. À l'inverse, vous avez des secteurs qui sont gagnants. Et typiquement, le secteur du commerce en ligne, on l'a vu pour les plus grosses entreprises comme Amazon, mais il y a beaucoup d'autres entreprises, notamment françaises, qui, elles, ont gagné de l'argent avec la crise du Covid.
Donc certains vont quand même avoir de jolis chèques grâce à cette épargne salariale. Parce que ça devient, en tout cas pour certains collaborateurs qui ont la chance d'avoir ce genre d'accord, ça devient quand même un élément important du salaire, la participation et l'intéressement, quand on est dans une entreprise qui partage bien les bénéfices et puis qui va bien.
Oui, tout à fait. C'est un vrai élément de motivation pour les salariés et un gros complément de revenus, sachant qu'en plus, comme c'est placé sur des plans épargne d'entreprise, c'est partiellement défiscalisé. Et donc, ça peut constituer un, deux, voire trois mois de salaire chez les entreprises les plus performantes. Donc, c'est vraiment c'est une cagnotte en plus pour les Français. Et au final, c'est des montants qui sont loin d'être négligeables, puisque c'est aux alentours de 14 milliards d'euros qui vont être versés cette année.
Ça a été pendant assez longtemps réservé quand même aux grands groupes, hein, on ne va pas se voiler la face. Ça se développe fortement depuis quelques années. Et là, à l'aune de la crise, le gouvernement a décidé de faciliter la mise en place de plans d'intéressement et de plans de participation pour les toutes petites entreprises. On peut dire qu'aujourd'hui, quasiment tous les salariés vont pouvoir en bénéficier ?
Alors, tous les salariés, peut-être pas, mais c'est vrai que le ticket d'entrée pour mettre en place ce genre de plan d'épargne et d'intéressement va beaucoup baisser. Donc, l'objectif, et c'est l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que de plus en plus de Français puissent avoir accès à ce genre de dispositif, parce que ça a plusieurs avantages. Ça permet de fidéliser les salariés, ça les implique dans les résultats de l'entreprise, et puis parallèlement, ça pousse les Français à investir dans les entreprises, ce qu'ils n'ont pas trop l'habitude de faire traditionnellement, puisque on sait que les Français n'aiment pas trop le risque, et globalement, ils laissent un peu trop d'argent sur leur livret A. Donc il y a un intérêt évident pour le gouvernement de développer ce genre de dispositif, et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment.
Est-ce que vous pensez qu'on pourrait même aller beaucoup plus loin? Parce que comme vous le dites très bien, c'est un bon moyen pour essayer d'intéresser les gens à dépenser, notamment l'argent qui a pu être placé là sur la participation à l'intéressement, rendre ça encore plus liquide pour que les gens l'utilisent.
Peut-être, mais le problème de l'intéressement et de la participation, c'est qu'il faut quand même que ce soit placé un certain temps. Mmh. Donc il faut quand même trouver l'équilibre entre l'argent, le salaire, tout simplement, et ces dispositifs qui sont très intéressants, mais qu'on place sur 5 ans, en l'occurrence. Et tout le monde, malheureusement, ne peut pas se permettre d'avoir de l'argent de côté pendant 5 ans.
Mmh. Ce qui devrait aussi, peut-être, en tout cas, doper à la mise en place d'accords d'intéressement et de participation, c'est que pour les entreprises qui vont vouloir verser la fameuse prime Macron de 1 000 euros, prime défiscalisée et désocialisée, prime qui peut aller jusqu'à 2 000 euros dans une vingtaine de métiers de la deuxième ligne, eh bien, il faut avoir un accord d'intéressement et de participation. Vous pensez que ça peut aussi doper ces accords ?
Oui, tout à fait. Les chefs d'entreprise aujourd'hui, évidemment, regardent de très près ces dispositifs défiscalisés. C'est une manière pour eux de récompenser le travail de leurs salariés, en particulier s'ils ont été en première ou en deuxième ligne. Et donc, à choisir entre une augmentation de salaire qui, elle, est fiscalisée et le versement de primes défiscalisées, c'est sûr que le choix est vite fait pour un patron d'entreprise.
Vous pensez que justement, beaucoup d'entreprises vont s'emparer de cette prime Macron nouvelle version ?
Oui, c'est forcément très intéressant, surtout vous le disiez sur les salariés les plus exposés à la crise du Covid. Après, bon, il y a deux conditions. Il faut quand même que les entreprises aient réussi à gagner de l'argent durant cette période, parce que sinon ça ne fait que faire un coup en plus. Mmh. Et d'autre part, il y a des secteurs, on le sait, qui sont beaucoup plus exposés médiatiquement que d'autres. Et typiquement la grande distribution, on sait qu'elle va beaucoup jouer sur ces primes Macron défiscalisées, parce que c'est aussi une manière pour eux de montrer publiquement qu'ils sont solidaires avec leurs salariés.
Merci beaucoup Maxime Chipoy. Je rappelle que vous êtes le président de Moneyvox. Moneyvox, c'est un site spécialisé sur l'argent. Et je rappelle cette information, le montant de l'épargne salariale versée cette année devrait baisser d'environ 20% selon vous. En cause, bien évidemment, une baisse importante des bénéfices dans un paquet d'entreprises. Un grand merci à vous et nous on se retrouve lundi 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. On vous retrouve en effet lundi 13h-14h pour La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Et vous vous intéresserez au marché de la véranda. C'est simple, les spécialistes n'en ont jamais vendu autant. Et pour en parler, vous recevrez le patron de la marque Akena. À lundi, Emmanuel. Et à 22h29, pardon, on jette un coup d'œil à vos unes de demain, avec d'abord Ouest France qui s'intéresse au tourisme et avec le rebond de mai, l'espoir d'une bonne saison pour ces professionnels que l'on voit justement en une préparer leur camping, déplier les transats. On en parlait justement dans le journal, vous avez peut-être la chance de partir ce week-end. Et avec la levée des restrictions de circulation, c'est un véritable rebond dans les réservations. Également en une du Figaro, un tout autre sujet, la bataille franco-allemande sur l'avenir du nucléaire. Le Figaro qui nous explique qu'un bras de fer se joue dans les couloirs de Bruxelles, puisque si Paris milite pour que l'Europe considère cette énergie atomique comme peu polluante, l'Allemagne, où les Verts sont en position de force, s'y oppose. Et avant de retrouver Sana Blanchet pour la Libre Antenne, on fait un détour par le stade de Lens. Les 100 et or affrontent en ce moment les Lillois en tête du classement. Lionel Gougelot, on s'approche de la fin du match et ça sent bon pour les Lillois.
Oui, il reste 20 minutes à jouer, hein, Roman, dans cette rencontre. Et les Lillois ont inscrit un troisième but. Ils mènent maintenant sur le score de 3-0 face à des Lensois, je vous le rappelle, réduit à 10. Au doublé de Burak Yılmaz en première période, eh bien, est venu s'ajouter, je vous le disais, un troisième but inscrit par Jonathan David. C'était à la 60e tout à l'heure. C'est parti d'un un tir de Jonathan Bamba, repoussé, mal repoussé par le gardien lensois Jean-Louis Leca. Il y avait Jonathan David à l'affût dans la surface de réparation pour contrôler ce ballon pied gauche et tirer en pivot et tromper ainsi le gardien lensois de façon tout à fait imparable. 3-0 donc pour des Lillois qui gèrent, qui maîtrisent cette rencontre et ce derby du Nord, des Lillois qui vont donc prendre 3 points vraisemblablement et donc maintenir la pression sur le Paris Saint-Germain qui devra gagner ce week-end pour espérer recoller derrière les nordistes.
Merci Lionel Gougelot et nous on fera un point sur la rencontre à 23h. Et pour l'heure, il est 22h31 sur Europe 1. Vous avez rendez-vous avec la Libre Antenne et Sana Blanger qui s'installe. Bonsoir Sana.
Bonsoir Romane.
Alors je rappelle le numéro à nos auditeurs, 39 21.
Absolument.
Et on est avec vous jusqu'à 1h du matin.
C'est parfait.
À tout à l'heure.